Bienvenue à Escale 16-17 avec Fulgence Blas au micro. Oui, c'est lundi, c'est le début de la semaine. Voilà, en première partie d'émission, c'est-à-dire après avoir planté le décor de l'émission, c'est Luis Thibault qui va nous parler de des réserves qui sont faites par notre corps et notre cerveau concernant le vieillissement, prendre de l'âge. Et en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Patricia Martin qui va nous parler de qui est auteur-professeur titulaire au département de géographie à l'Université de Montréal, qui va nous parler du livre « Géographie humaine, l'espace en partage ». Voilà. Et puis, bon, ben, le temps qui restera, bon, ben, je vais vous parler un peu de l'ascension de Félix Auger-Aliassime. Voilà. Il n'arrête pas, c'est son mois d'octobre. Il ne fait que soulever les trophées. Il n'aura plus de force là pour pouvoir les soulever. C'est le troisième, si je ne me trompe pas. Oui, ça... Oui, non, c'est ça, c'est son époque. Ça va très bien pour lui au tennis, là, dans son domaine, parce qu'il avait, raté plusieurs finales, là, maintenant. Là, bon, l'expérience est là, quoi. Alors, pour ne pas trop perdre de temps, tout de suite avec Luis Thibault, qui va nous parler de ses réserves qui sont faites par notre corps et notre cerveau. Bonjour, Luis.
Bonjour, Fulgence. voilà, j'espère que je ne vais pas tout trop vous effrayer en vous parlant avec mon blablabla sur les réserves cérébrales.
Avec ton blablabla, allez, arrête de jouer avec mon nom là.
Alors, on parle d'avancer en âge et puis, ben, comme on le sait, on ne fait pas de la même façon.
Oui.
Tout le monde n'avance pas en âge de la même façon, ni au même rythme. Hein?
Non.
Il y a des choses qu'on voit à l'œil nu, qui sont visibles, et il y a des choses qu'on ne voit pas.
Oui.
Et moi, je vais vous parler des choses qu'on ne voit pas.
Donc, ces réserves qui sont faites par notre corps et notre cerveau.
Ben, c'est ça, oui, parce que à partir de notre conception, on se développe, mais on amasse des réserves qui vont nous permettre plus tard, ben, notre corps de bien se former et ben, de bien se comporter à mesure qu'on avance en âge.
Oui.
Donc, pourquoi est-ce que ça arrive pas de la même façon chez toutes les personnes? Hein, on est tous différents.
Ouais, parce que chacun de nous est unique.
On est unique, évidemment. Mmh. Il y a plusieurs réponses à cette question.
Hein, voilà.
Pourquoi est-ce qu'on n'avance pas en âge de la même façon?
On t'écoute, alors, Louise.
ma réponse favorite à cette question, ouais. Eh ben, c'est une réponse scientifique.
Oui.
Alors, les scientifiques ont étudié les cellules, les animaux, les humains, et ils ont trouvé que ce sont nos réserves cérébrales qui feraient en sorte que nous sommes différents dans la façon dont nous avançons en âge.
Nos réserves cérébrales.
Ouais, ça serait stocké dans le cerveau. Et puis le cerveau, bah, il détermine plein de choses. Il va déterminer de quelle façon est-ce que on se comporte, comment on pense, comment on réfléchit, comment on prend des décisions, comment on se déplace. En fait, il y a plein de choses. Comment est-ce qu'on se rappelle?
C'est le chef d'orchestre.
Évidemment. Mmh. Alors, quand on dit cerveau, on parle de quoi au juste? Hein? On parle de nos neurones, qui sont les cellules de base, mais on parle aussi de synapses. Alors que je vous explique quelque chose, il y a une croyance populaire qui veut que nos neurones se touchent pour communiquer ensemble, comme des fils électriques se touchent. Ben, c'est pas vrai. Entre nos neurones, il y a des petits espaces, et ces petits espaces, ils ont le joli nom de synapses.
Okay.
Alors ces petits espaces, ces petites synapses-là, ils sont les points de communication entre les neurones. Quand on parle de cerveau, on parle aussi de son volume, le volume du cerveau, qui varie un peu d'une personne à l'autre, mais qui change à mesure qu'on avance en âge. Et évidemment, il y a toutes nos expériences vécues qui vont entrer dans l'équation de la réserve cérébrale. Donc la réserve cérébrale, ce sont nos neurones, nos synapses, le volume du cerveau, la composition, mais aussi toutes nos expériences qui vont d'une certaine façon forger nos réserves.
Okay.
Et nos réserves cérébrales, évidemment, on veut qu'elles soient bonnes. Pourquoi on veut qu'elles soient bonnes? Ben parce que tout ça va faire en sorte qu'on va bien avancer en âge.
Oui.
Et que nos fonctions, notre cœur, nos poumons, nos reins, notre santé, ben elles vont demeurer bonnes jusque très très longtemps dans la vie. Bon, je vous ai déjà parlé d'une étude dans laquelle on avait mesuré l'âge chronologique et l'âge biologique
oui.
du sujet. Alors, j'aimerais vous en reparler un peu parce que j'ai trouvé de nouvelles données qui sont fort intéressantes sur cette étude. Alors, je vous résume un peu. Il y avait des sujets qui étaient âgés de 38 ans et avec des tests cognitifs, des tests de leur fonction cérébrale, eh bien, on a réalisé que leur vrai âge, leur âge biologique, il variait entre 28 et 61 ans.
OK.
Alors, comment est-ce qu'on a fait ça? Ben, je ne vous avais pas mentionné qu'on a mesuré les fonctions du cerveau, les fonctions corporelles aussi, de ces sujets alors qu'ils étaient enfants. Et 38 ans plus tard, on a remesuré tout, on a refait tous ces tests pour réaliser que, ben, ils avaient en réalité entre 28 et 61 ans et non 38 ans. Mais ce qui est tout intéressant dans cette étude, c'est qu'on a aussi mesuré la rétine. On a observé la rétine des sujets et on a mesuré des trucs dans la rétine. Alors, la rétine, ben, c'est dans l'œil et ben, c'est important pour la vue, mais il semblerait que ça pourrait être un marqueur intéressant pour le vieillissement.
Ah bon?
Ouais. Alors, je vous épargne ben, toute la batterie de tests qu'on a fait.
Non, faut pas nous effrayer.
Non, pas trop vous effrayer, juste un peu quand même, on est le octobre. Alors, on a utilisé une technique de photographie en haute résolution.
Oui.
Qui mesure les vaisseaux sanguins de la rétine. Donc, il mesure si les vaisseaux sanguins, ben, ils sont nombreux, s'ils sont bien en forme, s'ils sont bien en santé. Et pourquoi est-ce qu'on a pensé à évaluer la rétine? Mais c'est parce que les petits vaisseaux de la rétine, dis-je bien, et les petits vaisseaux du cerveau, eh bien, ils auraient une même origine embryonnaire, ils se ressembleraient beaucoup.
Oh, OK. Ça vient de là.
On aurait pensé à ça.
Oui, ça vient de là.
Ben, ça vient de là. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a validé tous les tests qu'on a fait sur le cerveau avec les résultats obtenus avec la rétine. Et ben, ça veut dire que avoir une rétine en santé, ça pourrait être une espèce de marqueur ou ça pourrait être, nous permettre de prédire qu'on avance bien en âge. Et il semblerait que chez certaines personnes atteintes de démence, il n'y a pas seulement une atteinte au cerveau, mais il y a aussi une atteinte dans la vascularisation de la rétine.
Wow.
Ouais. Okay. Alors, on garde tout ça à l'œil. Et puis, j'aimerais aussi vous dire que, pour en revenir à nos réserves cognitives, ça sert à quoi? Bon, ça sert à bien avancer en âge, c'est très précieux. Mais je vais vous donner un exemple quand même assez convaincant des bienfaits d'une bonne réserve cognitive. Alors, si vous avez une réserve ou une capacité de réserve cognitive élevée, eh bien, dans le cas d'une lésion cérébrale qui est causée, par exemple, par un accident vasculo-cérébral, un AVC, eh bien, vous n'aurez pas ou que très peu
de dommages.
Changements, de dommages, c'est ça. Alors que les personnes qui ont une réserve cognitive moindre, eh bien, les dommages vont être plus importants. Et ça a été dûment mesuré dans des études cliniques.
Oui, oui. Parce que la période de rétablissement entre les différentes personnes qui ont eu l'AVC, quand même, c'est différent en fonction de l'individu, quoi.
C'est ça.
Donc, ça vient de là, de cette réserve de cognitive.
Ce serait relié à la réserve cérébrale.
Oui. Mm-hmm. Et donc, ça a un lien aussi avec l'alimentation.
Forcément, si j'en parle, forcément.
Oui, oui.
Alors, cette réserve cérébrale-là, ben, elle se forme dès la vie embryonnaire, durant l'enfance, et ça se poursuit tout au long de notre vie.
Jusqu'au dernier jour.
Jusqu'au dernier jour.
Oui, parce qu'il y a un dernier jour quand même.
La dernière seconde.
Et voilà, je ne vais pas faire flipper les gens, quoi.
Ben non, mais si vous voulez améliorer la façon dont vous mangez, ben moi, je vous dis, il n'est jamais trop tard.
Oui, à tout moment, à tout âge, on peut se rattraper, quoi, pour avoir une bonne réserve cognitive.
Oui, on peut, oui, et puis contribuer à améliorer sa réserve cérébrale.
Oui.
Je vous ai donné l'exemple de l'AVC, mais une bonne réserve cognitive vous permet aussi d'optimiser les performances de votre cerveau. Vous pouvez améliorer la plasticité de votre cerveau. C'est quoi la plasticité? Ben, c'est un peu comme un plastique mou, parce que votre cerveau est capable de s'adapter à plein de choses, à plein de situations. Mmh. Et si on s'adapte bien, eh bien, on vit mieux les différentes épreuves de la vie.
Oui, comme j'ai dit, c'est le chef d'orchestre de toutes les façons. C'est comme la carte mère d'un ordinateur qui mmh. est le disque dur, qui emmagasine tout, quoi.
Oui, oui, mais qui fait beaucoup mieux qu'un ordinateur.
Ah oui, ouais.
Mais quand même, l'image est bonne.
Oui,
oui. Mmh. Oui. Alors, l'ordinateur, il est plus ou moins plastique, alors que le cerveau, il l'est beaucoup. Oui. Et le cerveau, il change beaucoup en fonction de nos expériences et ce complexe.
Nos vécus.
Ben oui. Mmh. Alors, la réserve cognitive ou la réserve cérébrale, elle permet ça, de mieux avoir un cerveau plus plastique. Elle nous permet aussi de freiner le déclin de certaines facultés cognitives comme la mémoire, l'apprentissage, le contrôle des émotions. Les émotions, on en parle peu, hein. On voit, on avance en âge, on a moins de mémoire, tout ça, mais le contrôle de nos émotions, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup affecté alors qu'on avance en âge.
Oui.
Donc, de bonnes réserves cérébrales nous permettent de mieux contrôler nos émotions. Ouais. Alors, comment ça se constitue?
Est-ce qu'on devient plus sensible, plus émotionnel? On devient moins émotionnel? Comment...
On peut devenir plus stressé.
Ah.
Moins résistant au stress. Mm. Plus, on réagit moins bien au stress. Alors que quand on est un peu plus jeune, on peut en prendre plus. Alors que à mesure qu'on vieillit, le cerveau s'use.
Il y a des choses qu'on ne peut plus tolérer, quoi, qu'on ne peut plus digérer. Oui,
c'est ça. On ne peut plus digérer les situations. Il y a certains aliments non plus qu'on ne peut plus digérer.
Ah, oui.
Donc, il y a quand même plusieurs...
C'est toute une palette de précautions à prendre durant toute la vie, quoi. Durant toute notre vie, oui.
Alors, l'alimentation, ce serait, selon les experts, le facteur numéro un.
Oui.
Constitution des réserves cognitives. Mais il y a autre chose, vous avez parlé des expériences qu'on a vécues, mais aussi les apprentissages.
Oui.
Alors, quand on étudie longtemps, quand on étudie différentes choses, mmh. On améliore ses réserves cognitives.
Ah donc, si je comprends bien, lui, il y a des gens qui vont à l'université à l'âge de 70 ans, hein, qui vont faire un doctorat ou bien quelque chose comme ça, et ça veut dire qu'ils ont eu une bonne réserve cognitive.
Ils continuent d'entretenir leur réserve cognitive.
Et oui.
Et oui.
Ouais, et pour terminer?
Et pour terminer, moi, je peux vous dire que je vais vous en reparler. De la réserve cognitive, je vais vous parler aussi...
La suite.
De la suite, c'est mmh. ça, de la suite de tout ça, en vous parlant un petit peu plus de l'alimentation. Hein.
Oui, mais il n'y avait rien d'effrayant là-dedans, là. Tu nous as appris des choses, comme toujours.
Comme j'ai parlé quand même d'AVC.
Ah oui, ok. À moins qu'on vive sur une autre planète, mais non.
C'est ça, et on ne sait pas, hein, ça peut survenir à tout âge.
À tout âge, à tout moment, personne n'est à l'abri.
Personne n'est à l'abri.
Mmh.
Donc, voilà. Donc, on finit sur une note un petit peu effrayante, mais quand même.
Non, moi, ça ne me ferait pas du tout.
Pas du tout, tant mieux.
Voilà.
Donc, en tout cas, je souhaite que tout le monde passe du bon temps cette semaine et ce soir.
Oui, oui. Belle journée de, belle soirée d'Halloween. Belle journée et belle fin de journée d'Halloween.
Oui, d'Halloween, et puis vous pouvez manger des bonbons de temps en temps.
Oui.
Mais surtout, n'en faites pas, c'est une habitude.
Faut pas en abuser.
Faut pas en abuser, ça pourrait même affecter votre réserve cognitive de façon néfaste.
Merci beaucoup, Louise.
Je t'en prie, au revoir.
Bon reste de semaine. Hein.
Aussi, au revoir.
Au revoir.
Te trouver, tes amis vont s'annoncer. Ne sois pas triste, je sais que tu l'es. Ne C'est une promesse qui joue des tours. Seulement si tu l'attends, il te trouve. Le grand amour à ta poursuite. Mais comment il fera dans le noir pour te voir? Ne sois pas triste, tu sais que tu l'es. N'abandonne jamais jusqu'à ce que l'amour te trouve enfin.
Alors, c'est tout nouveau, hein, cette pièce-là de Rougemont. Et le titre de la pièce est « Jusqu'à ce que l'amour te trouve enfin ». Voilà. Ah, je vais parler de quoi aujourd'hui? Je vais parler un peu, moi, un peu plus tard, parce que je parle de Félix Auger, alias Sid Ménin. Non, ce sera après mon invité, en deuxième partie d'émission. Là, je vais parler maintenant de plastique. Voilà, la Méditerranée, l'océan le plus pollué au monde. Oui, ça, c'est pas une bonne nouvelle non plus. Hein. On attend des choses comme ça, vraiment. Il faut couper le robinet. Selon l'agence France Presse, c'est ce qui est triste, c'est vrai. La Méditerranée, c'est la première destination touristique au monde. Hein. Elle est soumise à une intense pression humaine avec en prime un quart du trafic maritime planétaire. C'est pas évident. Hein. Donc, c'est quand je vois des articles comme ça, je me dis, il faut en parler. J'ai des choses comme ça, je l'apprends. Parce que l'écologie, environnement, changement climatique, ça fait partie des sujets de prédilection ici sur les ondes de Canal M à Escale 16-17. Donc, on les trouve où, là, souvent là? Même au tréfonds des abysses, dans l'estomac des tortues, des animaux marins, sur les plages, le plastique est partout en Méditerranée, la mer la plus polluée au monde. Ça, c'est pas une bonne place. Hein. Quand on dit que tu es la mer la plus polluée au monde, c'est pas la meilleure des positions qu'on t'a attribuée, en tout cas. Voilà. Et même s'il y a beaucoup d'opérations de nettoyage qui se sont multipliées là-bas ces derniers temps, mais seule une réduction drastique des déchets à terre. Ça dit que nous, les humains qui les utilisons, on doit faire attention pour pouvoir freiner la catastrophe. Oui, c'est ça. Et puis, voilà, qu'est-ce qu'ils disent? Dans le canyon sous-marin de Monaco, il y a une équipe internationale de scientifiques qui a découvert une véritable décharge sous-marine à plus de 2 km de profondeur, des bidons, des gobelets, mais même pots de yaourt chamboussés. Plus de 20 ans après la disparition de la marque, mais qui n'est pas... Ah oui, mais c'est ça. Les gens pensent que oui, je jette à l'eau et puis bon, ben ça va... Ouais, ça va partir, quoi, dans quelques semaines, dans quelques mois. Non, c'est ça. Et 95% de ces déchets plastiques dans l'eau finissent dans les abysses, en la profondeur de la mer. Quand ils tombent sur ces décharges, les pilotes de sous-marins, les navires des militaires, là, savent qu'ils ont atteint le fond. Ça, c'est ça aussi, ouais. Et les chercheurs de cette mission qui... Il y a François Galgani qui est spécialiste des plastiques à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer Ifremer. Première destination touristique au monde, comme je l'ai dit, elle est soumise à cette intense pression humaine. On est, oh l'être humain, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. À un moment donné, il va falloir un jour qu'on se dise, prenons nos responsabilités, arrêtons de jeter les choses à la mer. À un quart, avec en prime un quart du trafic maritime planétaire, contenant 5 à 10% du plastique mondial. Donc cette mer semi-fermée qui atteint aussi un niveau de saturation, elle a l'air selon l'UNESCO, le plastique provoque chaque année la mort d'un million d'oiseaux et de plus de 100 000 mammifères marins dans le monde. Ouais. Je dis bien, 1 million d'oiseaux et plus de 100 000 mammifères dans le monde. On n'a pas le choix, il faut compter aussi, il faut couper le robinet. Hein, François, il faut couper le robinet. C'est François-Michel Lambert, président de l'Institut de l'économie séculaire, qui le dit. De Tel Aviv à Barcelone, les opérations de ramassage se multiplient. Oui, ça donne quelque chose, mais c'est... Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut éduquer les gens, ceux qui jettent ces plastiques? Je pense bien que chez nous ici, au Québec, depuis un certain moment, les épiceries n'ont plus le droit de fournir des sacs en plastique, si je ne me trompe pas. Voilà. C'est déjà un pas en avant. Et les opérations de ramassage de déchets en mer sont légion, mais certains les recyclent en basket, en bijoux, autres objets de consommation. C'est pas mal déjà. Hein. Mais l'effort est largement insuffisant. Il y a une association monégasque de protection de l'environnement. C'est des pires. Les expéditions en bateau peuvent même, du fait de leur lourd bilan carbone, déplacer le problème. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Qu'est-ce que vous voulez ? Des macroplastiques aux nanoplastiques. Oui. Les plus petits, là, qu'on ne voit même pas à l'œil nu. Ouais. Il faut des loupes pour les voir. Donc, les ramassages sur les plages peuvent avoir du sens. Mais avant que le plastique se disperse en mer, même si là encore, ces opérations servent surtout à alerter le grand public, on peut chacun de nous, chaque fois, ici chez nous, ici à Montréal, on peut, presque toutes les fins de semaine, ou bien une fois par mois, on peut se retrouver au bord du Saint-Laurent, sur les rives du Saint-Laurent, parce que le Saint-Laurent fait partie de la vie au Québec, de la province, la belle province du Québec. On peut se permettre, se retrouver en groupe, une manière de se retrouver pour dire on fait le petit geste ensemble, aller ramasser du plastique, pourquoi pas. Mathieu.
Tout à fait.
Oui.
Oui, diminuer, en fait, diminuer sa consommation, mais aussi.
C'est ça. C'est déjà
on peut faire des corvées.
C'est ça, on peut faire des corvées du ramassage comme ça. Ça se passe dans certaines régions du monde, dans certaines villes ici, même au Canada, si je ne me trompe pas. Ça peut aider beaucoup. Voilà. Il y a certaines solutions qui trouvent même, grâce auprès des scientifiques, comme le bateau poubelle Elcopol, entreprise française qui loue ses services aux collectivités. C'est déjà pas mal. C'est des zones fortement, sur des zones fortement polluées, le catamaran peut traiter 1000 mètres cubes d'eau par heure, hein, pour retenir les déchets et puis les hydrocarbures à travers un filtre. Ça permet d'alléger les choses. Voilà, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ? On doit faire avec. Voilà. En Corse, par exemple, dans la baie de Saint-Florent, Éric Dupont, qui est co-fondateur, qui brandit, quand il avait rencontré les journalistes de l'AP, il avait montré une bouteille comme ça, une bouteille en lambeau, un échantillon de ces déchets très dégradés qui, en général, terminent enfouis ou incinérés. Et tu vois, c'est les gens... Il y a des gens, beaucoup de gens qui font des efforts quand même. Pas seulement le public, les gens qui nettoient les plages ou autres, mais les scientifiques, il y a beaucoup d'équipes scientifiques qui sont très engagées, qui sont très impliquées dans ce genre de recherche. Là, pas de recherche, mais de travail. Donc, à chaque macroplastique récupéré, ce sont des dizaines de milliers de microplastiques en moins. Faisons nos efforts personnels. Faisons des efforts aussi en groupe pour essayer d'aller de l'avant. Sinon, voilà, je ne sais pas, la catastrophe dont parle l'UNESCO, je ne sais pas pour quand. Vous voyez, il y a beaucoup de gens parmi la nouvelle, dans la nouvelle génération qui sont
anxieux.
Anxieux, oui. L'éco-anxiété, qui est devenu un nouveau terme d'ailleurs, parce qu'ils ont peur du futur, ils ne savent même pas qu'est-ce que leur réserve le futur. C'est pas, je ne dis pas que tout le monde est éco-anxieux parmi les jeunes. Non, 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 même parmi la population adulte, plus âgée. Il y a des gens qui sont éco-anxieux, ils ne veulent même plus prendre d'avion. Ou bien ils se disent, ah non, je n'ai pas envie de polluer comme ça, de faire un voyage Montréal-Paris, ou bien Montréal-New York. Voilà, c'est, même si on va en voiture, même si on va en train, bon, ben, tout ça aussi, on pollue. On peut empêcher les gens de voyager quand même. Ils vont toujours voyager, qu'on le veuille ou pas. Voilà, donc, je continue, hein, parce que là, sincèrement, c'est quelquefois je me dis, au fait, pourquoi est-ce qu'on a réagi ? Pourquoi est-ce qu'on a réagi si tard ? Oui. Pourquoi cette réaction tardive de la part de chacun de nous ? Ou bien, on a pensé que c'était encore très loin, quoi. Parce que ça fait quand même des décennies que les scientifiques en parlent. C'est pas ici, je parle pas d'une affaire de 5 ans, 10 ans. Mais tant plus que ça, les scientifiques ont sonné l'alarme, l'alerte depuis fort longtemps. Alors, je ne veux pas parler des complotistes ici, là. Non, non, non. C'est-à-dire que ceux qui prennent les décisions dans les différents gouvernements, dans les différents pays, alors qu'est-ce qui... À un moment donné, il faut aller de l'avant, quoi. Ouais. Qu'est-ce que je vais dire encore, là ? Oui. Et pour lui, en tant que support de fixation de contaminants comme les hydrocarbures, les plastiques, et aussi... par ses propres substances chimiques, surtout quand ils se dégradent en micro, voire nanoplastique, d'une taille inférieure au millième de millimètre. Ouais. Suffisamment petit pour passer dans les tissus. Mais à ce stade, on n'a aucun recul, car une fois dans le milieu, on ne sait pas les récupérer et les déposer. Voilà. Un radeau pour virus. D'après les premières études d'ailleurs, certaines espèces sont particulièrement vulnérables. Les tortues, dont 80% intègrent des sacs plastiques. 80% des tortues de mer. Les gorgognes, une sorte de corail dont les branches sont sectionnées par les filets de pêche à la dérive. 10% des déchets marins mondiaux. Ou encore les myctophidés, ce sont ces petits poissons qui ingèrent aussi les microplastiques à la surface. Il est tellement présent, le plastique tellement présent en Méditerranée que par endroits, il s'est même intégré à l'écosystème. Tu vois, c'est les espèces de nœuds ensemble d'organismes invisibles vivant à la surface de l'eau l'utilisent notamment comme espace de flottaison pour se reproduire. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Son impact est très compliqué à qualifier. Bon, il est ingéré par la faune et les sols, mais il favorise aussi la multiplication d'une faune microbactérienne. Environ 24 trillions, c'est-à-dire milliards de microplastiques flottent à la surface des océans. Ouais, milliards de milliards, je dis bien 24 trillions. Oui. D'un continent à l'autre. Et les radeaux plastiques transportant des virus au gré des courants qui représentent un risque assez conséquent de déstabiliser les écosystèmes. C'est assez dangereux, y compris pour la santé humaine, pas seulement pour les animaux marins. Voilà. Je ne sais pas, je fais... À mon niveau, il va falloir que je crée un organisme. On va parcourir les rives du Saint-Laurent ici, sur l'île de Montréal, toutes les fins de semaine ou bien une fois par mois. Ou essayer de récupérer les plastiques qu'on peut récupérer. Mathieu, tu viendras avec?
Nous, on le fait dans notre ruelle une fois par année, puis c'est fou à chaque année à oui. quel point tout est à refaire.
Oui, c'est comme si
puis rien n'était. On est tous des habitants de la ruelle, on est tous conscients et on ne sait pas comment la vidange. Et on ne sait pas comment ça se ramasse dans notre ruelle.
Voilà. Mais c'est voilà. comme si rien n'a été fait.
Exact.
Voilà. Merci Mathieu de ton intervention. Allez, restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, je vais recevoir Patricia Martin, qui est professeure titulaire au département de géographie de l'Université de Montréal, qui va nous parler du livre « Géographie humaine, l'espace en partage ». Oui. À tout de suite. Restez.
Vous écoutez Escale 16-17 avec Fulgence Blas.
Alors, c'est la deuxième partie de l'émission. Mon invité est déjà prêt à nous parler de ce nouveau livre, de ce livre Géographie humaine, l'espace en partage. Patricia Martin, qui est professeure titulaire au département de géographie de l'Université de Montréal, avec ses collègues, se sont réunis, c'est des experts, ils sont tous des experts, dans ce livre qui rendent compte des réalités matérielles, politiques, institutionnelles, sociales et même personnelles de l'immigration au Québec, tout en n'oubliant pas de scruter les angles morts des débats engagés dans la société, notamment dans l'arène médiatique et autres, l'immigration, les paradis fiscaux, tout ça, et puis je ne sais pas comment l'idée leur est venue de nous faire partager à travers ce livre, à travers leur plume, à travers leur collaboration. Bonjour Patricia Martin.
Oui, bonjour.
Merci d'avoir le temps de venir nous parler de ça, au fait. Je dis d'abord, merci à vous et à vos collègues d'avoir mis...
Ben, merci à vous pour l'invitation.
C'est vous qui avez le temps de venir parler de ça et du travail, vous l'avez fait aussi avec vos collègues. Alors, de qui est venue l'idée?
D'où vient l'idée pour
oui.
ce livre?
Oui, pour ce livre.
Oui, ben écoutez, ça vient. Je dirais que la géographie humaine, surtout, a vécu toute une évolution dans sa pensée, etc. Puis il me semblait que c'est un projet collaboratif entre plusieurs professeurs du département de géographie à l'Université de Montréal.
Oui.
Et l'idée était d'essayer de mettre en valeur cette discipline, le faire connaître et écrire un livre qu'on pourrait utiliser aussi dans nos cours, etc. Donc, oui. c'était un peu un projet collectif qu'on voulait mettre en place.
Oh, oui. Alors, c'est quoi, si je vous demande dans quelques minutes, qu'est-ce que c'est que les géographies humaines?
Oui, ben, la géographie humaine, moi je, quand j'essaie d'expliquer qu'est-ce que c'est, parce que c'est toujours une question que il s'agit d'une discipline qui reste très mal connue.
Oui.
Moi, je le compare un peu avec l'histoire. Donc, moi, je dis toujours que l'histoire est l'étude en partie du temps.
Oui.
Et que la géographie est l'étude de l'espace et des relations sociales, économiques, politiques, qui s'exprime dans des relations spatiales,
oui.
C'est-à-dire qui a le droit d'être où, pourquoi, c'est
oui.
qui a le droit de prendre des décisions sur un espace quelconque. Donc voilà, c'est vraiment d'essayer de montrer que l'espace n'est pas juste quelque chose de neutre, mais en fait c'est quelque chose qui est imbriqué dans nos relations
interpersonnelles.
Ben, interpersonnel, mais plus que ça aussi, social, politique, etc.
Oui, c'est très large.
Voilà.
Oui.
Donc, c'est vraiment ça l'idée. Donc, on utilise dans le livre l'idée d'une imagination géographique.
Mm-hmm.
Donc, d'essayer de corriger, pour nous, les étudiants en partie.
Oui.
De comprendre et de regarder des espaces différents et de voir qu'ils ne sont pas juste naturels, c'est pas juste la façon que c'est normal, qu'on peut mettre en question l'organisation spatiale de notre monde. Donc, c'est vraiment de commencer à se interroger un peu sur l'organisation de l'espace dans lequel nous vivons.
Oui, c'est voilà. Ça, l'espace en partage. C'est pas seulement, le titre n'est pas juste géographie humaine, mais géographie humaine, l'espace en partage, l'espace que nous partageons. Nous partageons tous, oui. Et puis, bon, ben moi, au fur et à mesure que je parcourais le livre, je me suis dit, elle parle d'immigration, de déplacement des humains, et puis de paradis fiscaux, tout ça. J'ai dit, mais OK. Ça, je ne m'attendais pas, quand j'ai vu la géographie humaine d'abord, j'ai dit, de quoi ça parle au juste? Voilà, c'est ça, en gros. Mais qu'est-ce que les mouvements migratoires des humains, est-ce que tout le monde sait que ça, les humains se déplacent tout le temps?
Ouais.
Est-ce que... Allez-y.
Allez-y, avec la question.
Oui, voilà, les humains se déplacent tout le temps. Est-ce que vraiment ça a un impact sur la... Les mouvements ont un impact quelque part, et dans certaines régions qui reçoivent plus que d'autres, d'autres reçoivent moins parce qu'il y a des régions qui se vident, il y a d'autres qui en reçoivent beaucoup plus.
Mm-hmm.
Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour... Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour que les humains arrêtent de se déplacer massivement? Parce qu'avec tout ce qu'on vit, que ce soit d'une manière naturelle ou bien je ne sais quoi, les guerres et autres, on ne peut pas interdire ça.
On ne peut pas l'interdire. Non, je suis pas certaine de... Pour moi, la migration, c'est sûr que c'est un sujet que pour moi est complètement géographique.
Oui.
C'est-à-dire pourquoi certaines personnes vont se déplacer d'un endroit vers l'autre. Qui a le droit de le faire? Pourquoi?
Oui.
Qui n'a pas le droit de le faire? Et pourquoi? Et pour moi, ça passe beaucoup en relation avec le pouvoir que les États ont sur leurs frontières.
Mm-hmm.
Et donc là, quand on parle de migration, assez souvent, on va parler des pouvoirs aussi étatiques qui essaient d'empêcher certaines personnes d'entrer dans un territoire, tandis qu'ils veulent encourager aussi le déplacement des gens. Donc, pour moi, il y a vraiment un lien entre le découpage du monde dans des États-nations et le pouvoir de ces frontières de contrôler la migration. Donc, je ne suis pas sûre que j'ai répondu à votre question.
Oui,
mais pour moi, c'est une question, une des questions, je dirais, au cœur de la géographie humaine aujourd'hui. Donc, c'est de comprendre cette découpage qui est des fois très inégal.
Oui.
C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il y a des richesses dans certains endroits, peut-être moins dans d'autres, et après, de comprendre la relation que ça peut avoir aussi avec la mobilité ou la mobilité des personnes.
Oui, je dirais la mobilité massive même, en plus. C'est pas une mobilité... à contre-goutte, la mobilité massive. Parce que cet ouvrage aussi propose aussi une refonte de la manière dont on doit envisager et étudier l'immigration au Québec.
Est-ce que ça nous aide à comprendre cette question?
Oui.
Ben, écoutez, je crois que ce qu'il faut, cet ouvrage pour comment ça peut nous aider à comprendre certains débats par rapport à la migration,
oui.
À mon avis, ça doit nous aider à complexifier notre compréhension de pourquoi les gens vont vouloir se déplacer.
Oui.
Ça peut montrer aussi le développement de certains territoires en relation avec d'autres territoires pour montrer que même s'il y a des découpages sur la carte, comme je disais, avec les frontières étatiques, etc., il y a aussi des relations qui se construisent au fur et à mesure du temps. Donc je crois que cette histoire de relations,
oui.
qui est aussi extrêmement important à se rappeler, donc que nous sommes tous comme on a tous été déplacés en mouvement à long terme. Donc, encore là, je ne suis pas sûre que je réponde à votre question, mais c'est peut-être de complexifier un peu notre regard sur le territoire, sur le mouvement et sur les grands débats en relation avec la migration.
Parce que c'est un phénomène global. Hein. Et puis, quand vous touchez, même dans ce livre, quand je suis tombé sur le paragraphe, c'est là où vous parlez des paradis fiscaux, la fuite, des paradis fiscaux, je me suis dit, bon, ben, c'est plus large que ça, géographie humaine, l'espace en partage, c'est ça.
C'est
pour ceux qui ne savent pas, parlez-nous un peu, les paradis fiscaux, c'est quoi? Pour certaines personnes, ils disent, c'est des lieux où on cache juste l'argent.
Ouais. Ben, écoutez, pour
Le Luxembourg, les îles Caïmans et autres, que vous citez dans le livre.
Oui. Donc, en effet, donc, c'est comme pour moi, quand je parle, par exemple, de la mondialisation, c'est un thème aussi qu'on aborde beaucoup dans l'actualité, etc. Pour moi, assez souvent, on veut avoir l'idée que c'est un processus où on traverse les frontières, on efface les frontières, etc. Moi, je dirais que c'est pas nécessairement le cas. En fait, ça répond ou ça se construit sur de nouvelles géographies. Dont les paradis fiscaux, à mon avis, sont très importants. Ça a beaucoup à voir avec le déréglementation de l'économie et la néolibéralisation de l'économie.
Oui.
Donc, ce sont comme des exceptions qu'ils ont venu avoir beaucoup de pouvoir économique, etc.
Oui.
Et donc, ce sont des espaces concrets avec des lois concrètes. Et donc là, on parle vraiment d'une géographie financière, si vous voulez, qui a énormément de pouvoir, mais qui sont cachés à la fois. Donc la géographie peut montrer, en effet, les relations entre ces territoires qui semblent cachés et nos réalités ailleurs dans le monde. Donc c'est en effet. Donc moi, quand je parle de la mondialisation avec mes étudiants, je parle de paradis fiscaux, je parle de ce qu'on appelle les villes globales, et aussi l'émergence de ce qu'on appelle des zones franches, c'est-à-dire des zones de production économique qui sont aussi extrêmement contrôlées, mais où il y a une exploitation importante de la main-d'œuvre pour la production des biens qui sont globales, en quelque sorte. Donc, ce sont comme des ancres géographiques qui soutiennent la forme de mondialisation économique que nous vivons actuellement.
Alors, si je prends la balle au bon, puisqu'on y est, si la mondialisation, est-ce que selon vous, est-ce qu'elle est négative?
Encore là, je pense qu'il faut avoir nuancé un peu la question.
Ouais.
Moi, je dirais que c'est pas négative comme processus en soi, mais ça dépend comment ça le contrôle.
Voilà, ça devait être fait autrement.
Quelles sont les fins? Ça pourrait être fait autrement. Moi, je suis complètement pour toutes sortes d'échanges, de mélanges de tout.
Oui.
Mais c'est quoi l'objectif de ces relations? C'est qui en profite, c'est qui en tire le profit. Et voilà, donc je crois que c'est ça qu'il faut vraiment regarder plus qu'un grand débat, est-ce que c'est bon ou pas bon. C'est plutôt comment ça se passe, quels sont les processus qu'on regarde vraiment, mm-hmm. et c'est qui en profite plus ou moins. Et donc, je crois qu'en faisant ça, on peut, ça donne un ancrage encore à des processus qui sont toujours abstraits, sur lesquels on n'a aucune contrôle. Donc, je crois que le livre aussi veut essayer de montrer que, oui, c'est comme si on arrive à atterriser certains concepts de grands débats dans nos espaces, dans des espaces ailleurs, ça peut aussi ouvrir la porte à une autre type de sentir que oui, on n'est pas juste des victimes, mettons, mais on peut aussi faire des choses, je
oui.
crois.
Oui.
Donc, oui. Voilà, donc...
Oui, ce que j'ai trouvé dans l'ouvrage intéressant aussi, c'est que vous soulignez, vous et vos collègues, vous soulignez l'importance de la géographie et comme discipline pour comprendre le monde qui nous entoure, comme vous l'expliquez actuellement d'ailleurs.
Ouais.
Oui, c'est pas juste les cartes là. Oui, le pays se trouve là, la capitale est de l'autre côté.
Non,
le...
pas du tout.
C'est pas.
Ah, oui. Ouais, c'est une discipline qui est très intégratrice. Oh. Et je crois que l'autre thème qui est très important en géographie humaine, parce qu'assez souvent, la géographie est découpée entre la géographie humaine et la géographie physique.
Oui.
Mais il y a tout un champ qui essaie d'étudier vraiment les relations entre la nature et les sociétés, mmh. et qui est une partie très importante de la géographie, mmh. Pour aussi expliquer nos relations avec l'environnement, une façon d'aborder, par exemple, les crises, la crise environnementale, etc.
Oui.
Donc, je considère que la géographie comme discipline offre aussi des façons d'aborder ces questions de manière très intéressante et très importante pour le monde actuel.
Oui, et puis dans ce livre aussi, on découvre au fur et à mesure qu'on avance les liens étroits qui unissent par exemple la mondialisation économique et les migrations, et on comprend mieux le caractère indissociable des questions coloniales et celle de l'accès aux ressources et aux territoires pour les peuples ayant subi diverses formes de dépossession.
Oui, tout à fait. Absolument. Donc, encore une fois, là, ça revient à toute cette question un développement ou un processus de... Ben, c'est la mondialisation, mais plus à long terme, mais une transformation des territoires à travers le monde qui sont en lien avec toute l'histoire coloniale,
oui.
Qui a un impact important à mes yeux.
Oui.
Toujours
oui.
très important aujourd'hui.
Oui.
C'est pas déterminant, mais ça a un impact très important sur la situation actuelle des territoires autour du monde.
Mmh.
Ouais, tout à fait. Et puis pour moi, ça il y a des liens, comme vous avez dit, entre de mobilité, le développement économique ou l'exploitation, si on veut, accès aux ressources, etc. Donc, tous ces thèmes sont tous ces processus sont reliés
oui,
entre eux.
Oui. Et chaque chapitre illustre bien d'ailleurs des dynamiques socio-spatiales qui animent nos espaces en partage. C'est ça même.
Ouais.
C'est... Alors, comment... Je ne vais pas demander comment vous voyez l'avenir. Est-ce que c'est rose? Est-ce que c'est... c'est pas ce que je vais dire. J'espère que ce livre-là va être distribué dans les écoles supérieures, dans les classes supérieures secondaires et autres, là, pour que les élèves puissent s'en servir dans les cours. Pourquoi pas,
ouais. On espère bien que ça va être utilisé. C'est en partie l'objectif avec le livre, même si on veut aussi... s'adresser à un public beaucoup plus large aussi pour présenter ce qui est la géographie.
Oui.
Moi encore là, j'aime. C'est comme moi, je suis quelqu'un qui dans ma propre travail de professeur, on parle assez souvent des thèmes qui sont difficiles, mais moi j'essaie d'expliquer, mais c'est toujours avec un certain optimisme qu'on peut trouver aussi d'autres façons de faire des choses ou de voir des histoires qui sont plus positives, etc. Donc c'est toujours avec, c'est un peu étrange, une critique des préoccupations de l'état actuel du monde, de certains processus, mais toujours avec l'espoir qu'on avec une autre façon de comprendre le monde, on peut aussi le transformer.
Oui.
Voilà. Donc, je pense que ça aussi, c'est un des messages de ce livre.
De ce livre-là, oui. Ouais. On dit merci à la collaboration avec la presse de l'Université de Montréal, votre université, la presse de votre université, qui a fêté ses 60 ans le 6 octobre passé. Là.
Oui.
Oh oui, 60 ans d'existence, la presse de l'Université de Montréal. Alors, quand vous avez fini ce livre-là avec vos collègues, est-ce que vous vous êtes dit, est-ce qu'on arrête là ou bien il faut qu'il y ait un deuxième numéro?
Ouais. Je crois que là, on va voir comment celui-ci est pris et utilisé. On espère bien que ça vraiment... on est très fiers de ce livre.
C'est pas moi qui vais dire le contraire. Moi, en tant que lecteur, je vous dis bravo à toute l'équipe, à vos collègues,
et à la
presse de l'Université de Montréal qui a collaboré avec vous pour vous imprimer en même temps. Comment vos confrères qui n'ont pas participé à la mise en œuvre de ce livre ont réagi s'ils l'ont lu?
On a eu quelques échos déjà, très positifs. Il y a eu un certain sentiment que, en particulier en géographie francophone, qu'on n'avait pas un livre de référence de cette nature.
Oui.
Donc, ça vient combler une certaine vide qui existe, un autre avis. Mais pour moi, en tout cas, voilà, donc je pense que on va voir. On n'a pas eu encore des évaluations ou de recensements qui nous dit exactement comment ça va être reçu, mais on est très fiers du travail. Le livre mobilise beaucoup des exemples et donc on pense que ça peut vraiment servir de base pour l'enseignement en géographie.
Oui.
Mais comme je disais, on vise aussi un public un petit peu plus large.
Oui.
Pour essayer de vraiment présenter notre discipline ici et ailleurs.
Oui. Voilà. je vous le dis sincèrement, même si vous êtes toutes des profs d'université, des universitaires, ce livre s'adresse à tout le monde parce que vous n'êtes pas resté dans le langage universitaire.
Ouais.
Ça m'a beaucoup. Oui, allez-y.
Ouais, ben on a vraiment fait un travail. Ben c'était aussi un des désirs de la presse de l'Université de Montréal, mais on a vraiment fait un travail d'essayer d'expliquer de manière assez directe et compréhensible, aussi des concepts complexes, quoi. Donc c'est d'essayer de trouver cette
approche,
approche qui est à la fois publique mais aussi intellectuelle.
Intellectuelle en même temps, voilà.
Le bon créneau, le bon espace pour une lecture plus large.
Oui, plus large pour atteindre le plus grand nombre de gens. Pour ne pas que les gens commencent après la première page et disent non, c'est trop université, moi je ne peux pas continuer. Voilà, non.
Oui, c'est ça, exactement.
Merci beaucoup à vous, Patricia Martin, professeure titulaire au département de géographie de l'Université de Montréal, pour le livre Géographie humaine, au pluriel bien sûr, l'espace en partage. Moi, j'ai hâte de voir le point 2.0. Hein.
Ok, merci. Je vous tiendrai au courant.
D'accord. Merci beaucoup à vous.
Merci.
Au revoir.
Bonne journée.
Merci à vous aussi. Voilà, merci beaucoup à à Patricia Martin, qui est professeure titulaire au département de géographie de l'Université de Montréal, qui est venue parler de ce livre, Les géographies humaines, l'espace qu'on partage, ça touche à tout, hein. Migration, immigration, le déplacement des gens, bien sûr, et les paradis fiscaux, la population, les exploitations dans les pays, les compagnies qui délocalisent pour aller dans les pays où la main-d'œuvre est moins chère. Ça parle de tout ça là-dedans. Et puis, c'est, comme je l'ai dit, à la fin de notre conversation, c'est pas le langage qui a été mis dans ce livre-là, avec ses collègues, la plume, tout ce qui est la danse, tout le monde peut comprendre. C'est pas philosophique, universitaire. Non, non, c'est beau, hein, c'est tout est là-dedans. Moi, j'adore, sincèrement. J'espère que ça va continuer et que ces professeurs vont être en mesure, ou bien la maison d'édition de l'Université de Montréal va être en mesure de négocier avec les différentes écoles, les écoles secondaires, les différentes universités, pour pouvoir mettre ce livre à la disposition des étudiants et étudiantes. Voilà, pour terminer l'émission. Je vais parler rapidement de FAA, Félix Auger-Aliassime, qui vient de soulever encore un trophée. Encore un trophée, voilà. C'est pas. D'abord, il a battu, hein. Il a battu avant d'arriver là. Il a battu le numéro 1 mondial avant d'arriver à la finale. Il n'est pas arrivé là comme ça. C'est-à-dire que le mois d'octobre, là, il devient invincible. Ça, il faut le dire. Moi, je me suis dit, je me rappelle des 8 finales auxquelles il a participé et qu'il a perdu. Mais ce mois d'octobre 2022, c'est pas le cas. Ah, voilà. Ah, il a décroché, hein. Sur les terres de Roger Federer à Bâle en Suisse. C'est hier, ça s'est passé. Là, il va rejoindre, il va se rendre en France, là, pour aller participer à notre tournoi là-bas. J'espère qu'il va nous soulever notre trophée. Demain, je vais revenir là-dessus parce que son parcours est vraiment impressionnant, ce garçon, depuis le début du mois d'octobre, là. Vraiment, il n'arrête pas, quoi. Les victoires sur victoires. Je ne peux pas dire non, on l'a assez critiqué ici pour dire qu'il n'est pas constant. Maintenant, il y a une constance qui est là. Hein, Mathieu?
J'imagine.
Ouais, il y a une constance. Presque chaque dimanche, il y a un trophée qu'il soulève. J'ai vu la fin du match d'hier où il est tombé, il s'est couché. Alors, merci. On est à la fin de l'émission. Demain, je vais aller plus en détail là-dessus, après la chronique de série avec Myriam. Merci à toi, Mathieu Tessier. On se retrouve demain.
Oui.
Voilà, je savais qu'il allait répondre d'abord. Et merci à Louise Thibault et merci à Patricia Martin pour le livre « Géographie humaine, l'espace en partage ». J'ai dit merci aussi à vous, chers fidèles auditeurs et auditrices. On se retrouve demain à la même heure sur les ondes de Canal M. Et belle fin de journée d'Halloween, faut pas l'oublier. Hein. Pour ceux qui ont des enfants, pour aller frapper à des portes, aller ramasser les bonbons, voilà, profitez-en. Je vous dis merci, prenez soin de vos minutes et on se retrouve demain à la même heure, sur les ondes de Canal. Et merci à la recherchiste de l'émission, Catherine Bourderon. Voilà, permis d'avoir ce beau livre, cette belle conversation avec Patricia Martin, la professeure titulaire au département de géographie de l'Université de Montréal. On termine en beauté avec Riri, c'est Rihanna. C'est sorti là dernièrement, depuis le 28. C'est Lift Me Up, c'est tout nouveau. Je vous laisse déguster. Et sur ce, je vous dis ciao.
Keep me close. Safe and sound. Safe and sound.